Et comme convenu, nous sommes en direct avec Dr Nouhaïla Kharad, qui est nutritionniste et diététicienne. Bonjour docteur.
Bonjour Selma, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Merci, gentil.
Et comme je disais tout à l'heure à nos auditeurs, aujourd'hui on va vous parler du petit déjeuner. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée?
Alors écoutez, en principe, quand on parle du point de vue scientifique, d'après les études, ce n'est pas un repas obligatoire. On va prendre à titre d'exemple, pendant le mois de Ramadan, quand on jeûne, on ne se réveille pas le matin pour faire le petit déjeuner.
Exactement.
On peut décaler au long de la journée. Ou par exemple, lorsqu'on parle des jeûnes intermittents, à ce moment-là aussi, quand on parle de jeûne intermittent, ce n'est pas forcément qu'on va se réveiller le matin à 7 heures, on va devoir avoir le petit déjeuner avant 10 heures par exemple. On peut le retarder à 13 heures ou à n'importe quelle heure de la journée. Donc, en termes d'horaire, ce n'est pas ça le problème, mais en termes de premier repas de la journée, on pourra dire que c'est toujours intéressant d'avoir un petit déjeuner. Parce que qu'est-ce que c'est le petit déjeuner? Déjà, quand on est, en fait, le dernier repas de la journée qu'on a, dans l'occurrence qui est le dîner, on passe plusieurs heures sans rien manger, donc entre 8h, 10h jusqu'à 12h, en fonction de chaque personne. Donc dans cette période-là, on est en période de jeûne. Donc le matin, c'est le petit déjeuner. On est en train de rentrer de jeûne et on prend le premier repas de la journée. Donc dans ce cas-là, pourquoi c'est important ce petit déjeuner? Parce que déjà, il nous faut une énergie. On ne peut pas passer plusieurs heures sans prendre un repas parce que notre niveau de glycémie sanguin va baisser. Donc ça pourra être un risque pour des personnes qui vont sentir par exemple une petite hypoglycémie sur le cou. Et là, je ne parle pas bien sûr des personnes diabétiques, mais des personnes en état de santé normal. Mais au même temps, quand on démarre la journée, on a besoin d'un petit coup de pouce qui va nous donner cette énergie pour être en bonne forme et pouvoir faire nos activités journalières. Et même par exemple pour les enfants quand ils passent à l'école, si on n'a pas ce petit déjeuner qui va être bien sûr un petit déjeuner nutritif et sain et équilibré qui va nous donner les nutriments nécessaires, bah, le rendement physique et intellectuel des enfants, il va être aussi baissé. Donc d'où l'importance d'avoir un petit déjeuner, même si ce n'est pas obligatoire, parce que comme on le sait, il y a pas mal de personnes qui ont des soucis et qui ne peuvent pas prendre ce petit déjeuner.
Et justement, que vous avez parlé, par exemple, des gens, c'est en effet pendant le Ramadan, on ne prend pas son petit déjeuner. Il y a aussi des gens qui font des jeûnes intermittents et qui repoussent l'heure du petit déjeuner. Il y a aussi des gens qui ont du mal, en fait, à manger le matin. Je dis ça aussi personnellement, j'avoue, j'ai du mal à manger un petit déjeuner le matin. Est-ce que c'est mauvais de, justement, ça peut être mauvais pour ces personnes qui ont du mal à manger tôt le matin?
Pas forcément, parce qu'il faut quand même respecter l'appétit de chaque personne.
Oui.
Parce que là, on va dire qu'il y a des personnes qui se réveillent le matin, qui n'ont pas envie de manger dès le réveil et ils doivent prendre 2 heures ou 3 heures après le réveil pour avoir leur premier repas de la journée, dans l'occurrence le petit déjeuner. Il faut respecter ce rythme-là, ne pas les pousser à manger par force. Parce que dans tous les cas, soit ils ne vont pas manger, soit ils vont manger et par la suite, ils vont pouvoir avoir des malaises, par exemple.
Oui.
Donc dans ce cas, l'idéal, ce serait de ne pas les forcer, mais au moins de donner une alternative saine au moment où ils vont prendre ce petit déjeuner tardif. Parce que généralement, on a tendance, quand ces personnes elles retardent leur petit déjeuner pour plus tard, ils cherchent les propositions ou les alternatives plutôt les plus pratiques et les plus faciles. Et là, on va parler bien sûr des jus industriels, de la viennoiserie, des biscuits, des gâteaux. Donc, on va vraiment aller pour des choses qui ne sont pas du point de vue nutritionnel. On va dire la qualité nutritionnelle ou l'apport nutritionnel qu'on cherche, on ne va pas le trouver dans ce petit déjeuner qui va être à base de sucre rapide, beaucoup de graisses saturées qui n'ont aucune valeur nutritionnelle pour notre santé. Donc, d'où l'importance vraiment d'orienter ces personnes-là pour pouvoir faire les bons choix pour leur premier repas de la journée, que ce soit tôt, que ce soit quelques heures plus tard. Mais l'essentiel, c'est vraiment de choisir une qualité nutritionnelle afin de démarrer une journée avec les nutriments nécessaires.
Et c'est vrai, docteur, en parlant de qualité nutritionnelle, de quoi doit être composé un petit déjeuner optimal?
Alors, le petit déjeuner, déjà, il faut savoir que quand on parle de petit déjeuner, il faut respecter le pourcentage d'apport calorique que notre corps nécessitera pendant ses repas. Parce que si on a le 100% dans toute la journée, donc entre 20 à 25% de la journée, ça devrait être concentré pour le petit déjeuner. Et là, bien sûr, il faut choisir des groupes alimentaires. Donc déjà, on va choisir des céréales complets et non pas des céréales blancs ou raffinées pour leur apport en fibres qui vont nous rassasier, mais en même temps pour leur apport en minéraux et en vitamines. Et pourquoi des céréales? Parce que ce sont une source de glucides complexes qui vont être à absorption lente et qui vont nous maintenir pendant une longue durée rassasiée, mais en même temps qui vont nous donner l'énergie nécessaire sans pour autant provoquer des pics de glycémie. Parce que si on prend, à titre d'exemple, on va prendre du pain blanc ou du pain complet, qu'on va prendre au petit déjeuner, bah, le pain blanc, par exemple, on va manger, mais si on prend toute une baguette, au bout d'une heure, deux heures maximum, on sera déjà avec l'envie de manger à notre repas. Ou de grignoter. Par contre, quand on prend du pain complet, il suffit avec un morceau en moyenne, on va dire 80, 100 grammes, 120 grammes, et cela dépend bien sûr de chaque personne et de ses besoins spécifiques. Donc, dans ce cas-là, quand on prescrit du pain complet qui est riche en fibres et vitamines et minéraux, et aussi sucre lent, ça va nous maintenir rassasiés pendant une longue durée, 3 à 4 heures. D'où on ressent, par exemple, si on prend le petit déjeuner, je dis n'importe quoi, à 8 heures, on va prendre le déjeuner à midi 13 heures. On ne va pas avoir forcément faim à 10 heures, 11 heures.
Oui.
Bien sûr, il y a des cas de personnes où, par exemple, ils nécessitent de prendre des collations entre les repas. Par exemple, les cas des diabétiques, je dis n'importe quoi, diabétiques ou une personne, par exemple, des enfants qui sont en période d'études. Donc, entre les deux repas, ils auront besoin d'un petit coup d'énergie qu'ils vont consommer à travers des aliments sains, par exemple, des fruits, des oléagineux, des fruits secs, par exemple. Et donc, ça, en ce qui concerne tout ce qui est céréales. Par la suite, on aura besoin aussi d'une source de protéines. Donc, protéines sous forme de fromage frais, sous forme de lait entier. On ne va pas aller s'amuser à prendre du lait écrémé juste parce que c'est 0% matière grasse. Mmh. Il faut savoir que notre corps a besoin de la matière grasse. Et en plus de ça, le lait entier, il est riche en vitamine D parce que le lait écrémé, contrairement au lait entier, on ne va pas trouver de vitamine D, sauf si le lait est enrichi en vitamine D, chose qu'on ne va pas trouver dans tous les laits. Donc, d'où l'importance de consommer toujours du lait entier, bien sûr, sauf en cas de contre-indication. C'est là où on va, par exemple, donner du lait écrémé. On peut prendre un yaourt nature. On ne va pas aller s'amuser à prendre des yaourts à boire remplis de produits chimiques, de colorants et d'additifs alimentaires. Donc, on va préférer des alternatives plus saines. Et on peut, par exemple, consommer de l'œuf. Là, il nous englobe deux groupes alimentaires et les protéines et les graisses de qualité parce qu'il est très, très riche en oméga 3. Donc, ça reste quand même un aliment qui va être complet et riche en acides aminés essentiels. Et donc, là, on va parler donc, des glucides qu'on va trouver dans les céréales, des protéines qu'on va trouver dans les sources que je viens de mentionner et des graisses qu'on va trouver dans l'œuf, par exemple, dans l'avocat, dans l'huile d'argan qu'on a très répandue au Maroc, de l'huile d'olive également. On peut, par exemple, utiliser les patates tartinées d'arachide, le fameux peanut butter. On va aussi pouvoir utiliser de la pâte à tartiner d'amandes ou de noix de cajou. Bien sûr, sans que c'est naturel, sans avoir beaucoup d'additifs alimentaires, parce qu'il faut faire attention, parce qu'on trouve des pâtes à tartiner d'arachide où on a de l'huile de palme, où on a d'autres produits que notre corps ne nécessite pas et forcément vont être toxiques et malsains pour notre santé. Oui. Donc l'importance parfois, si on a les moyens de les faire, on peut les faire soi-même chez nous.
Exactement.
Donc, là, on a trois sources. Et l'hydratation, bien évidemment, on peut s'hydrater à base d'eau, du thé, du café ou des infusions et même des jus. Et dans l'occurrence, on peut choisir parfois des jus de fruits, mais aussi on peut installer la consommation des jus de légumes qui sont toujours plus intéressants que les jus de fruits. Et à la place des jus de fruits, on peut consommer le fruit frais pour avoir l'apport de vitamines, minéraux et fibres dont on aura besoin.
Exactement. Et enfin, docteur, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment éviter, c'est vrai que pour certaines personnes qui prennent leur petit déjeuner, notamment tôt, il y a le fameux creux de 10 heures du matin, la fameuse envie de grignoter parfois en milieu de matinée. Comment éviter ça?
Alors, on n'est pas obligé de l'éviter parce qu'il y a dans des cas les personnes qui nécessitent de prendre cette collation entre le petit déjeuner et le déjeuner, surtout s'il y en a 6 heures d'écart entre les deux repas, par exemple. Mmh. Donc, c'est plus intéressant de prendre une collation pour maintenir le niveau de glycémie sanguin stable. Maintenant, pour les personnes qui veulent grignoter et à tort et à travers des snacks ou des collations qui sont malsaines parce qu'ils vont faire un mauvais choix, mais tout de même qu'ils n'ont pas eu un bon petit déjeuner, parce que ce serait peut-être le petit déjeuner qui leur a provoqué cette envie de prendre ce snack. Parce que parfois, si c'est un petit déjeuner qui est déséquilibré, comme on a dit au départ, des jus, de la viennoiserie, des biscuits, du miel, des confitures, pâte à tartiner au chocolat, donc forcément, on n'aura pas les nutriments nécessaires qui vont nous rassasier et qui vont nous laisser pour une longue durée sans faim. Donc, dans ce cas-là, ce serait bien de corriger le petit déjeuner en se basant sur les quatre groupes alimentaires que j'ai mentionnés, donc les protéines, les sucres et les graisses de bonne qualité, bien sûr avec une source d'hydratation. Comme ça, on n'aura pas un problème par la suite et on n'aura pas besoin d'aller prendre une collation. Et même si on aura besoin de la prendre, on va aller faire des bons choix et choisir des oléagineux, des fruits secs, des fruits frais, un yaourt nature. Ça peut être un petit sandwich à base de pain complet avec un peu d'œuf dur ou une omelette, ou par exemple un sandwich où on va avoir un peu de laitue, tomate et œuf dur ou du thon par exemple. Donc on peut toujours faire un snack, que ce soit un snack sucré ou salé, mais toujours que ce soit des alternatives saines. Et on va aller choisir des aliments bruts et non pas des aliments qui sont industriels et transformés.
Bien, merci beaucoup, docteur Nouraïla Kharad. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci pour tous ces conseils et à la semaine prochaine pour un autre numéro à vos côtés de Matin Famille.
Merci, Selma.
Très bonne journée.